Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer les sables de Saqqara, c'est-à-dire à quelques encablures de l'antique Memphis, en Égypte. Nous allons suivre l'extraordinaire parcours de François-Auguste Ferdinand Mariette et croiser ici ou là les chemins de deux autres précurseurs de l'égyptologie française de ce premier 19e siècle, Jean-François Champollion et Nestor Lott. Auguste Mariette est assurément le principal protagoniste de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Personnage haut en couleur, c'est un Breton né à Boulogne-sur-Mer en 1821, c'est-à-dire sous le régime de la Restauration en France. Il s'agit aussi des années où Champollion décrypte les hiéroglyphes. Et c'est presque par hasard que Auguste Mariette découvre et se passionne pour l'Égypte antique. En 1845, décède un de ses cousins, un certain Nestor Lott. Ce Nestor Lott n'est autre que le dessinateur qui a accompagné Jean-François Champollion quand celui-ci obtient de se rendre en Égypte entre 1828 et 1829. Voyage important pour celui qui a compris le système hiéroglyphique, car c'est pour lui l'occasion de confronter sa découverte avec de nombreuses inscriptions et de collecter aussi des objets pour le musée du Louvre. Nestor Lott a fait deux autres expéditions en Égypte. Il y réalise de nombreux dessins, croquis de monuments, mais aussi des aquarelles de paysages. La qualité du dessin de Nestor Lott est tout simplement remarquable de par sa précision. Quand en 1845 il décède, son père est en poste à Boulogne, dans l'administration des douanes. Or, Auguste Mariette est professeur dans le collège de la ville. Aussi, le père de Nestor demande à Auguste de trier les papiers de son fils. Auguste Mariette plonge donc dans les notes de voyage, les dessins, les croquis et les lettres de son cousin. C'est peu de dire que le choc est important. Ces heures bouleversent la vie d'Auguste qui découvre là une véritable passion pour l'Égypte. Il est tellement intéressé par ce qu'il lit qu'il se plonge rapidement dans l'apprentissage des langues anciennes. Les hiéroglyphes, le copte, le syriaque ou l'araméen. Bientôt, il donne sa démission de l'enseignement et quitte la Bretagne pour aller se faire embaucher à un modeste poste de commis au musée du Louvre à Paris. Sa connaissance du copte va lui permettre de saisir une opportunité rare. En 1849, Emmanuel de Rouget obtient la direction du musée égyptien au sein du Louvre. Il a repéré les qualités et l'entrain de Mariette. Aussi, dès 1850, il lui confie une mission en Égypte. Il s'agit d'acheter des manuscrits coptes et syriaques pour le compte du musée. Concrètement, Emmanuel de Rouget espère que certains de ces manuscrits soient conservés dans des monastères coptes en Égypte. Auguste Mariette a alors 29 ans. Et même si la mission est tout sauf prestigieuse, se rendre en Égypte est simplement enthousiasmant. Voilà donc Auguste Mariette qui embarque en direction de l'Égypte. Arrivé au Caire, il engage les démarches pour acquérir les manuscrits réclamés par le musée, mais rapidement, il constate qu'il ne parvient pas à conclure l'affaire. Déçu, mais pas abattu, il part se promener en ville, il monte sur les remparts du Caire et observe le paysage. Les pyramides sont là, sous ses yeux, plantées dans le sable de la plaine de Saqqara. Nous sommes le 19 octobre 1850. Le lendemain matin, le 20 octobre, Auguste Mariette va marcher à côté de la Grande Pyramide. Et plus au sud, alors qu'il passe non loin de la pyramide à degrés de Djoser, il aperçoit une étrange forme émergeant du sable. Il se rapproche. Cette étrange forme n'est autre qu'une tête de sphinx. Tout en continuant sa promenade, Auguste Mariette repense à une ancienne lecture qu'il avait faite, Strabon, le célèbre voyageur grec qui compila au 1er siècle avant notre ère ses connaissances historiques et ses observations géographiques. Strabon connaissait bien l'Égypte. En 25 ou 24 avant Jésus-Christ, il avait notamment accompagné un ami, préfet romain, et remonté le Nil à ses côtés. Et que disait Strabon de cet endroit, de la plaine de Saqqara ? Il décrit un ensemble architectural monumental autour du temple d'Apis ou de Sérapis, on parlera du Sérapéum ou du Sérapéion. Strabon dit même que l'endroit est déjà en grande partie ensablé. Mais dans la description que l'auteur grec fait du lieu, il parle d'une longue allée bordée par des sphinx. Voilà le détail qui permet à Auguste Mariette de se dire qu'il y a là, sous le sable, quelque chose d'intéressant. Le terme exact pour désigner ces allées est un dromos. C'est donc une allée souvent bordée de sphinx et de chapelles qui permettent tout simplement lors des processions certains rites religieux. Et cet élément de l'urbanisme égyptien est présent sur d'autres endroits. Celui du Sérapéum, d'après Strabon, mesure l'équivalent de 1300 mètres de long. Digression faite, revenons au sable de Saqqara. Sans plus tarder, et surtout sans attendre la moindre autorisation des autorités françaises ou du musée du Louvre, Auguste Mariette engage une trentaine d'ouvriers pour désensabler ce qu'il pense être le Sérapéum. Comment fait-il pour payer les ouvriers ? Eh bien, tout simplement avec l'argent que le conservateur du Louvre, Emmanuel de Rouget, lui avait confié pour l'achat des manuscrits coptes. Dès les premiers jours de fouilles, des découvertes majeures sont réalisées. Il dégage des sables une centaine de sphinx appartenant sûrement à la fameuse allée conduisant au temple d'Apis, le Sérapéum. Ces sphinx sont de taille relativement réduite, puisqu'ils mesurent à peu près la taille d'un homme et sont hauts de 1 mètre. Plusieurs sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre. Rapidement, il met au jour une belle statue d'Apis. Mais surtout, le 1er novembre 1850, soit à peine 10 jours après sa promenade sur le plateau de Saqqara, il trouve dans un temple la statue du petit scribe accroupi. Petite statue célébrissime aujourd'hui et conservée au Louvre. Cette statue fait partie des stars du musée. Elle est peinte et mesure 54 cm de haut. Elle représente un scribe assis en tailleur, portant un simple pagne. D'une main, il tient un papyrus, et de l'autre, il devait sûrement tenir un kalam, c'est-à-dire l'instrument qui servait à écrire. Mais là où la statue est absolument remarquable, c'est dans la représentation du visage de la personne, une représentation très individuelle, peu stéréotypée. Il va de soi que tout un chacun ne pouvait se payer le luxe d'être statufié ainsi durant l'Égypte ancienne. On peut donc, sans prendre de risques majeurs, assurer qu'il s'agit d'une personne importante. Certains affirment que cette statue représente un enfant du pharaon. Les fouilles que Auguste Mariette conduit sur le Sérapéum de Saqqara vont durer 4 ans. Elles dégagent un ensemble qui a été construit puis agrandi tout au long de l'époque pharaonique. Le site est déjà particulièrement actif sous le règne de Ramsès II, c'est-à-dire aux alentours de 1250 avant notre ère. Pour vous situer cette période fort reculée, rappelons que c'est à peu près la période mythique de la guerre de Troie du côté des Grecs, et que le Parthénon ne sera construit sur l'Acropole à Athènes que 700 ans plus tard. Tout d'abord, Auguste Mariette fait dégager le Dromos, cette grande allée qui se poursuit à l'intérieur du temple en conduisant directement sur l'entrée de la nécropole où étaient enterrés les taureaux sacrés. Mais je crois que, avant de poursuivre le récit de la fouille, il est utile que je vous présente rapidement le dieu Apis et les pratiques religieuses qui lui étaient liées. Apis est un dieu qui a été vénéré tout au long de la civilisation égyptienne. Sous sa forme animale, il était représenté en taureau au pelage blanc. Et sous sa forme humaine, il porte un pagne qui lui couvre le bassin et le haut des jambes. Il a alors une tête de taureau surmontée d'un disque solaire. Apis est un dieu lié au culte funéraire, au cycle soleil-lune. Juste une précision en passant, les dieux égyptiens évoluent au cours de l'histoire et changent parfois selon les lieux. Sachez cependant que Apis est à rapprocher de Ptah, qui lui-même a rapproché d'Atum, le dieu qui a créé les autres dieux. Autrement dit, Apis est bien un dieu lié au grand cycle et au mythe de la création. Mais le plus important pour bien comprendre les découvertes archéologiques que Auguste Mariette fait est d'avoir en tête les incarnations terrestres du dieu. En effet, le dieu Apis s'incarnait sur terre dans un taureau. Ce taureau était choisi par les prêtres du dieu selon des critères très précis. Il devait avoir à la fois un pelage noir, un triangle blanc sur le front pour représenter le delta du Nil, mais aussi un signe de scarabée sous la langue, entre autres critères. Certains mythes rapportés par l'historien grec Hérodote disent même que la vache qui donnait le veau, futur Apis, était en fait fécondée par un éclair. Une fois le veau, le taureau, sélectionné, il devenait l'Apis. Un seul était vénéré en même temps dans toute l'Égypte. Celui-ci était conduit à Memphis et accueilli en grande pompe au cours d'une fête de 7 jours. Puis les prêtres s'occupaient de lui pendant 25 ans. 25 années passées, il était sacrifié par noyade au bord du Nil dans un bassin construit à cette intention. La noyade du taureau commémore alors celle qu'Osiris a subie lorsqu'il a été assassiné par son frère Seth au début du mythe osirien. après quoi le taureau était momifié, et ce sont ces momies qui étaient conservées dans le Sérapéum, découvert par Auguste Mariette. Les prêtres partaient alors à la recherche de la nouvelle incarnation du dieu, selon les fameux critères évoqués auparavant. Revenons aux fouilles archéologiques conduites par l'égyptologue français. Le temple trouvé est immense. Il a une forme rectangulaire de 150 mètres de long pour 100 mètres de large. Les catacombes d'Apis sont creusées sous le temple. Cet ensemble souterrain est très bien conservé, à la grande différence de ce qui reste à la surface. L'ensemble souterrain comporte deux couloirs, un petit, orienté nord-sud, et un grand, creusé ultérieurement, orienté est-ouest. En tout, c'est une cinquantaine de caveaux qui ont été creusés ici pour y enterrer les taureaux momifiés. À l'instar de la position des sphinx, les taureaux étaient momifiés à genoux. Ces apices pouvaient être mis dans des sarcophages toujours présents aujourd'hui. Il faut dire que leur déplacement est quelque peu difficile et pouvait dissuader les pilleurs. Certains de ces sarcophages pèsent 80 tonnes et sont d'une seule pièce taillée dans du granit. Auguste Mariette ne trouve la véritable entrée des catacombes qu'un an après le début des fouilles, le 12 novembre 1851. Au cours des fouilles, pressé par la volonté de ne laisser personne d'autre s'emparer du site et des objets qui s'y trouvent, Auguste Mariette utilise des explosifs pour dégager certaines tombes. Si ces pratiques ont bien sûr été vivement critiquées du fait des dégâts occasionnés, il est important de garder en tête que l'égyptologue sera le premier à tenter d'éviter le pillage systématique de l'Égypte en créant un institut égyptien des antiquités au Caire. Ainsi, la grande majorité des découvertes pourront désormais y être conservées. Enfin, en conclusion, il est à noter que le Sérapéum intriguait les Européens de passage en Égypte bien avant Auguste Mariette. Certains l'avaient vu sans savoir ce dont il s'agissait, faute de lire les hiéroglyphes. Comme un voyageur italien qui parle dans sa correspondance en 1693 d'un labyrinthe souterrain non loin des pyramides. D'autres, au contraire, vont chercher le Sérapéum sans le trouver, au rang desquels Bonaparte. Il faut dire pour sa décharge qu'il ne disposait pas de tout le temps nécessaire. Il a, paraît-il, à l'époque, quelques soucis avec les Anglais. Auguste Mariette va travailler encore 30 ans entre Paris et l'Égypte. Les découvertes qu'il va faire sont nombreuses et fondamentales. Aussi, je ferai dans les jours qui viennent un podcast pour présenter la fin de la carrière d'Auguste Mariette et un autre épisode pour présenter dans le détail le Sérapéum.